Écoutons voir le podcast proposé par le Bar à Photo.
Dans ce 8e épisode, nous allons explorer la photographie comme terrain d'expérimentation plastique, doté du pouvoir de créer des images aussi sensorielles que mystérieuses, avec la photographe Alissa Tourte. Alors faites-vous un café, installez-vous confortablement dans un fauteuil, comme si vous étiez avec nous dans la galerie du Bar à Photo.
Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, nous recevons la photographe Alissa Tourte pour l'exposition Spectre que nous accueillons actuellement au Bar à Photo. Bienvenue Alissa et merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci pour votre accueil.
Eh bien, écoute, on est ravis de discuter photographie avec toi et pour déjà poser un peu un contexte avant de rentrer dans les détails de ton exposition, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, commencer voilà, au début de ton histoire, comment t'en es arrivée à faire de la photo, quel a été l'élément déclencheur pour toi ?
Alors, du plus loin que je me souvienne, j'ai commencé au collège, donc assez jeune, parce qu'un ami de mes parents était photographe, je crois que c'était pour un office du tourisme, ou quelque chose comme ça. J'ai fait l'acquisition d'un petit appareil compact et j'ai commencé à faire pas mal d'autoportraits dans mon souvenir et à faire poser des copines, camarades, etc. Ensuite, au niveau de mon parcours, j'ai fait un bac littéraire option histoire de l'art. Et je me suis dirigée vers la fac, vers une fac d'histoire de l'art et art du spectacle. Je me suis très vite arrêtée au final. J'ai découvert qu'à Lyon, il y avait une école de photographie qui s'appelait Blue, où j'ai postulé et j'ai été prise. Et donc j'y suis restée 3 ans. Et ça fonctionnait en workshop en fait. Donc c'était des photographes qui venaient faire part de leur expérience et il y avait un thème un peu à chaque... chaque semaine, on avait un thème prédéfini et donc les photographes venaient nous aiguiller sur ces sujets-là. Et voilà.
Et aujourd'hui, c'est ton métier, tu en vis, enfin, après l'école, voilà, t'en es où aujourd'hui vis-à-vis de ce parcours, vis-à-vis de ta pratique, comment tu te perçois ?
Alors, cette école, c'était une école beaucoup axée sur la photographie documentaire et sur la démarche personnelle également. Donc, ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. On ne parlait pas tant de technique. Et par la suite, par contre, je me suis orientée complètement vers autre chose. Donc, j'ai continué la photographie en passion. Donc, au début, je faisais beaucoup de numérique et à l'école, c'est là où j'ai découvert l'argentique au final. Donc j'ai fait de plus en plus d'argentique après ce cursus, mais pas tant avant. Donc après l'école, par contre, je me suis orientée vers la restauration parce que financièrement parlant, il fallait que je fasse quelque chose. Et j'avais un peu du mal à me dire que je vivrais de la photographie au niveau... J'arrivais pas tant à me dire que j'allais en vivre en tant qu'artisan. En fait, donc faire tout ce qui est photographie commerciale, etc. Je préférais, j'arrivais pas à m'orienter vers ça. Donc j'ai gardé la photographie comme passion un peu dans ma petite bulle.
Et donc vraiment pour te, quand tu t'accordes aujourd'hui à des projets photos, c'est avec une démarche artistique parce que justement tu veux rester dans dans ce choix.
Oui, plutôt au final. Plutôt comme de cette manière-là. Après, j'ai déjà quand même essayé un petit peu de faire des commandes personnelles, etc. Mais j'avais quand même pas mal peur, surtout du retour client, en fait, parce que c'est quand même assez particulier de faire... Les gens ont des attentes. Et donc, faire quelque chose qui correspond à notre travail, ça nous donne du plaisir à faire et qui fasse plaisir également aux clients, je trouvais ça compliqué. Et c'est surtout que tu as un peu peur de décevoir quand même la personne en face si jamais ça colle pas. Donc après, j'ai préféré faire quelque chose qui moi me faisait plaisir aussi et ne pas perdre ça.
Donc pour garder vraiment une totale liberté de création et de ne pas avoir un rapport de clientèle avec...
Ouais.
Et du coup, par rapport à cette série, quel a été ton point de départ? Quand est-ce que tu l'as commencé? Voilà, est-ce que tu peux nous donner une petite impulsion sur tes premières pistes d'idées de quand tu as commencé cette série de photos?
Alors, cette série, elle s'est un peu retrouvée improvisée, au final, on va dire même. Parce que, donc justement, dans cette école, on faisait beaucoup de photographie documentaire, donc très axée de ce côté-là. Et donc sociale, etc. Et alors j'aimais beaucoup parce que du coup c'est l'occasion de faire des rencontres quand même, des rencontres qui apportent énormément, et même au niveau de la photographie ça ouvre aussi quand même des portes, etc. Et après cette série-là en particulier, disons que c'est une série qui est intemporelle, c'est pas le terme que je veux utiliser. Elle a été créée, enfin construite, avec des photos qui datent tant d'il y a très longtemps que des plus récentes. J'ai un peu pris... J'ai regardé un peu toutes mes images et petit à petit, j'ai trouvé dans certaines un peu une suite qui, moi, me touchait ou me paraissait logique, entre guillemets. Mais au niveau du fond, c'est par exemple, je parle de récit. Je parle de récit poétique. Mais c'est vrai que le terme est un peu faux, parce qu'un récit, ça se construit avec une introduction, un développement et une conclusion. Et là, c'était pas tant l'idée que je voulais apporter, c'était plus une sorte de fresque, un petit peu.
Donc tu ne veux pas du tout y voir ou en mettre d'ailleurs de chronologie, c'est un ensemble.
Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de légende. C'est-à-dire que chaque photo, je voulais pas qu'il y ait ni de... Alors, une temporalité, une certaine quand même, avec l'ordre des photos, mais qu'il n'y ait pas de précision au niveau que ce soit des personnages ou des lieux, etc., pour laisser aux gens la place de se poser des questions aussi, et de laisser la place à leur imagination ou à ce qu'ils voulaient mettre dedans.
Donc aucune de tes photos n'a de nom.
Voilà.
Ok.
Oui, c'est du coup...
Et le seul nom que tu donnes à l'ensemble, c'est le titre de l'expo, Spectre, que tu as décidé de mettre au pluriel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les spectres dont tu parles? Qui sont-ils?
Alors, donc Spectre, c'est un... Donc, je ne sais pas trop comment m'est venue cette idée. En fait, ça s'est un peu imposé tout seul, au final. Alors, je sais qu'après, spectre, même le mot en soi a des résonances assez effrayantes, parce que la définition du spectre, c'est quand même une entité, un fantôme, mais qui est censé être effrayant, quand même, de base. Mais c'est beaucoup un terme qui est utilisé dans le courant du romantisme au fin 18e, début 19e siècle. Donc ce courant, alors j'ai pas d'affinité énorme avec, mais il y a toujours cet esprit d'imagination, de la place du rêve, de la mort aussi quand même, mine de rien, et donc du culte de la nature, etc. Et je voulais donc, il y a donc ce lien avec le courant romantique, et après il y avait cette idée du spectre au niveau de la lumière, déjà, qui s'imposait.
Donc, du coup, tu nous parles de quelque chose, voilà, dans ce courant romantique qui, c'est vrai, dans le mot spectre, on peut y voir quelque chose d'un peu fantomatique, assez mystérieux. À la fois, spectre, c'est vrai que c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais qui peut aussi renvoyer à tout ce qui est lumière, etc. Et il y a une particularité dans ton travail, en tout cas dans les photos que tu nous présentes, c'est qu'elle mélange le noir et blanc et la couleur. Est-ce que... Enfin, du coup, pourquoi ce choix? Comment tu as décidé de les mélanger? Puisque du coup, tu nous dis que tu as regardé un peu dans ton fond de photos, dans ton travail, et que tu les as sélectionnés pour cette série. Est-ce que c'est un mot qui t'a guidé dans ce choix? De trouver des spectres aussi de couleurs, etc.
Alors non, parce que le titre s'est imposé de lui-même après le choix des images. Après, je considère que c'est une série qui n'est pas fixe, en fait. Et peut-être que j'y rajouterai un jour des images un peu selon ce que je pense qui peut fonctionner avec ou non. Et le choix du noir et blanc et de la couleur, c'est pareil. C'est vrai qu'une série photographique, on a tendance... on nous apprend que c'est quand même censé être basé soit sur un événement, sur un lieu, en noir et blanc, en couleur, en numérique ou en argentique, etc. Et j'ai voulu quand même essayer de créer une sorte de chronologie en allant... C'était pas tant l'idée d'aller du noir et blanc à la couleur, mais plus de l'ombre à la lumière, je pense.
D'où cette idée aussi, enfin, ça marche avec le titre, d'autant
ouais.
plus.
Ouais.
C'est des spectres au pluriel qui se mélangent. T'as créé comme une... Tu parles de fresques, on peut parler de partitions aussi. T'as ouais. choisi des cadrages assez différents. Des cadres noirs qui mettent en valeur encore plus ton noir et blanc, mais aussi ta couleur. Ça, c'est assez, assez intéressant. Et justement, dans ce noir et blanc, on a un peu tendance à dire que souvent, c'est un choix qui fige l'image, qui la rend intemporelle. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que les images, les photos que tu as choisies en noir et blanc, tu les vois un petit peu plus... Enfin, figé, là, ça paraît négatif, mais dans le sens où tu voulais leur donner un caractère un peu ouais, voilà, intemporel vis-à-vis de celle que tu choisis en couleur ou pas spécialement?
Alors, au niveau de l'intemporalité, pas spécialement, parce que déjà, le fait que je n'ai pas mis de légende ou quoi que ce soit, l'idée, c'est qu'elle soit un peu toute dans cette intemporalité... Après, au niveau du noir et blanc, entre le choix du noir et blanc et de la couleur, ça s'est fait beaucoup parce que selon l'endroit ou le lieu ou les personnes que j'ai photographiées, j'ai fait ces images en noir et blanc ou en couleur. C'est compliqué à dire les choix qu'on fait au moment où on les fait au final. Mais je trouvais que ça pouvait coller. Après, au niveau des corps, je sais que... par exemple, les morceaux de corps qu'on peut voir sur les images derrière, c'est des images que si je les refaisais, je les ferais toujours en noir et blanc. Ce rapport au corps, quand même en particulier.
Parce que c'est vrai que de suite, justement, tu parles de ces détails de corps extrêmement rapprochés, où on ne peut pas du tout deviner. Qui est derrière cette image, etc. À quoi ressemble le modèle. Enfin voilà, il y a vraiment un côté extrêmement cadrage resserré. Et encore plus avec le noir et blanc qui donne un côté intemporel où on ne peut pas dater ce corps, cette époque, encore plus que sur des photos en couleur. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que. Non, il n'y a pas de photos de corps en couleur.
Il y a la dernière ouais. qui est un body painting, mais pour le coup, du coup, là, la couleur s'imposait ouais, un peu pour ne pas laisser passer.
Et du coup, sur cette question du temps, tu l'as un peu dit, mais j'ai envie de revenir dessus. Tu penses qu'il y a une fin possible à cette série ou tu ne te poses pas la question et tu verras?
Alors, je ne me suis pas tant posé la question et vu que... Je considère ça au final pas tant comme un récit vraiment. Peut-être qu'il y aura un moment où je vais considérer qu'elle sera terminée et puis il y en aura encore derrière. Il y en aura encore derrière au final qui se rajouteront petit à petit. L'idée c'était de faire des échos un peu. Alors après chacun le voit comme il le veut aussi. Ça marchait quand même à la base beaucoup en diptyque. Enfin, les premiers échos et relations que j'ai mis entre les photos, c'était beaucoup des diptyques. Et petit à petit, ça s'est élargi. Et donc après, j'essayais aussi de parler du thème de l'identité largement, et aussi l'identité du genre, même si c'est pas le principal... sujet de la série, je trouvais ça intéressant et important d'en parler.
Justement, sur cette question d'identité, on remarque assez vite que dans cette série, il y a autant des corps qui sont voilés, réellement dévoilés, avec des artifices ou par des cadrages. On a à la fois des personnes, au moins un portrait, celui-là qui est assez, enfin, qu'on peut identifier, les autres pas forcément. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette pensée de, voilà, quel est ton rapport justement à ça, au modèle, au corps? Qu'est-ce que tu as envie de dire dans ce récit, dans ces photos? sur ce rapport où tu as envie à la fois de voiler, dévoiler. Enfin, on le retrouve vraiment plusieurs fois, là, le personnage. On ne voit pas son visage, mais on voit son corps. Là-bas aussi, avec le voile en transparence, donc on le devine, mais pas vraiment. Est-ce qu'il y avait un fil rouge aussi qui t'a animé quand tu as pris ces photos ?
Eh ben, je ne m'en suis même pas rendu compte. En réalité, c'est toi qui me fais la remarque, et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce genre d'échange.
Moi, ça m'a vraiment frappé de me dire qu'il y avait, je crois, sauf si je ne m'abuse, que ce portrait qui nous regarde en plus, qui c'est pas juste qu'on peut identifier. Hein. Ouais. C'est même si le regard est un peu en biais, c'est un des rares personnages qu'on peut voilà identifier dans la série. Alors on peut justement, comme tu nous laisses libre d'imagination, se demander si après les zooms, pas les zooms, est-ce qu'on le retrouve dans d'autres photos, on le sait pas, sur la position du corps un peu fœtal, est-ce que c'est la même personne ou pas, enfin après voilà, on peut y voir des choses ou pas, et puis comme après on retrouve d'autres personnages qui sont très différents ou masqués, je trouve que c'était assez étonnant, enfin intriguant, en tout cas ça crée vachement de mystère que d'avoir laissé ce personnage unique un peu comme le seul... J'allais dire voyeur, non, mais en tout cas, il nous permet de nous connecter à lui, et voilà.
Ok, je vois très bien. Alors, il n'y avait pas d'intention particulière. Cette photo, je l'ai aussi intégrée, je travaille beaucoup à l'argentique, et c'est vrai que dans l'argentique, j'aime beaucoup les surprises, en fait, les imperfections.
Oui, j'allais dire, je pense à la tarte à tatin, enfin, quand on arrive à trouver des trucs super en faisant des erreurs, quoi.
Du coup, au niveau de l'argentique, j'aimais beaucoup aussi ce côté où parfois il y avait les surprises et les imperfections. Et en l'occurrence, sur ce portrait que j'allais nommer mais que je ne vous ai pas nommé, du coup, il y a donc ici on ne le voit pas, mais il y a une grosse trace au milieu du visage. On pourrait croire que la vitre est cassée. Et en fait, c'est une rayure sur le négatif. Qui a fait que c'est même peut-être juste pour ça que j'ai intégré cette image à la série, donc aussi au niveau de l'identité de genre, mais ça après personne n'est censé non plus le savoir ou quoi que ce soit, mais il y avait ce côté d'imperfection de l'argentique, voilà. Et au tout début il y a également un autre personnage qu'on voit c'est un peu pareil d'ailleurs, c'est une photographie en argentique où il y avait des défauts sur le négatif qui ont fait que ça lui donnait quelque chose de plus que ce que je n'aurais imaginé à la base. Après, le fait de voiler, dévoiler...
Après, c'est inconscient, hein, mais c'est vrai qu'on n'a forcément pas le même regard quand on crée et quand on observe. Et c'est vrai que surtout, voilà, ces différents personnages... Moi, je m'étais dit, tiens, est-ce que ça a été quelque chose qui a conduit tes projets photos ? Enfin, quand tu prenais tes photos, voilà, est-ce que tu t'en étais rendu compte ? Est-ce que tu cherchais à explorer ça ?
Non, pas spécialement. Je sais que j'aime beaucoup... Alors, dévoiler, je sais que, justement, dévoiler, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup travailler sur le corps, la nudité, le rapport à la nudité, l'intimité, etc. Et après, voiler, par contre, ça a été plutôt... Donc il y en a quand même quelques-unes. Et ça, c'est des photos prises sur le... Celle-ci est une photo prise sur le vif, en l'occurrence. Et donc, il y avait aussi encore cette question d'identité. Du coup, la référence aussi un peu à Magritte, entre guillemets, au surréalisme que j'apprécie beaucoup.
Et du coup, quelle place tu donnes au hasard et quelle place tu donnes à la construction du récit, même si tu nous dis que ce n'en est pas un. Tu parles de construction de fiction, à la limite c'est peut-être plus large. Vraiment, du coup, quand on t'entend et quand on voit les photos, on se demande qu'est-ce qui est de l'ordre du hasard, de la mise en scène. Est-ce que tu pars quand tu vas faire tes photos avec l'idée, avec une idée derrière la tête, ou est-ce que c'est au gré des rencontres, etc.
Alors, donc j'ai deux démarches assez différentes. Il y a beaucoup de... Au niveau du portrait, j'ai des périodes où je vais faire beaucoup de mise en scène, en fait. Donc, pour faire la démarche de contacter des personnes ou bien d'accepter des demandes. Donc par exemple, j'ai vécu un an à Toulouse où j'ai pris beaucoup plus de temps pour ça. Donc pendant à la fin du Covid, je me suis installée un an à Toulouse où j'ai pris le temps justement de réaliser des mises en scène avec des personnes que je ne connaissais pas d'ailleurs. Donc c'était assez compliqué au début parce que j'ai quand même besoin d'un certain lien aussi. J'essayais de rencontrer quand même les personnes avant un peu pour parler, etc. Pour quand même créer un contact, quoi, parce que c'est pas si simple de réaliser des images avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc il y a des périodes comme ça où je suis beaucoup très inspirée par le fait de mettre en scène, etc. Et après, il y aurait également pas mal de moments où je vais travailler plus sur le vif, donc notamment en voyage. J'essaye maintenant de m'orienter pas mal vers la street photographie. Donc là, ça n'a pas de rapport avec cette série au final, mais...
Oui, parce que tu parles de photographie de voyage instantané.
Ouais.
Qu'est-ce que tu... c'est quoi l'idée? C'est quoi que... Enfin, dès que tu pars en voyage, tu prends tes appareils photo, tu choisis tes voyages en fonction des paysages, des couleurs que tu veux aller photographier, ou est-ce que c'est de l'ordre du hasard, mais tu es toujours prête dégainer l'appareil?
En voyage, ce sera surtout de l'ordre du hasard. Au tout début, j'ai fait quelques voyages en me disant là j'y vais pour réaliser des images parce que ces choses-là m'interpellent entre guillemets, mais c'est une démarche qui me convient pas, j'ai l'impression, donc je laisse plus de place au hasard maintenant.
Et d'ailleurs, dans cette expo, parce que peut-être que du coup tu es en train de partir sur d'autres sujets, y a vraiment on alterne entre l'intimité, le corps et la nature aussi, on n'en a pas trop parlé, mais du coup quelle place tu donnes à la nature? Parce que quand on observe, on voit quand même plutôt des grands formats, enfin en tout cas des plus grands formats donnés à des petites parties du corps et des petits cadrages pour des grands espaces, notamment tes montagnes, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Est-ce que tu voulais y mettre une intention derrière? Est-ce que tu as envie de resserrer quelque chose d'immense et de serrer quelque chose d'intime? Enfin, est-ce qu'il y a une intention?
Alors, en effet, il y a eu quand même un inversement à ce niveau-là. J'ai peut-être plus mis l'humain, entre guillemets, en valeur par rapport au paysage. Après, au niveau des paysages, c'est surtout des montagnes globalement. Et c'est un sujet que j'aimerais quand même développer à l'avenir. Parce que c'est des endroits où... Alors, la photo de paysage n'est pas du tout mon truc à la base. C'est pas du tout mon domaine. Mais petit à petit, je commence à prendre du plaisir à photographier la nature. Même si c'est vrai que l'humain, quand même... J'ai des affinités avec les deux, en fait.
Et du coup, ouais, ici, tu as voulu faire des analogies corps-nature.
Oui, il y avait cette idée aussi. Notamment sur les quatre premières, c'est peut-être un peu plus flagrant déjà.
Pour revenir un peu sur la partie technique, aujourd'hui, tu travailles avec quoi? Est-ce que tu travailles toujours à l'argentique? Est-ce que tu travailles avec les deux, argentique numérique?
Alors, maintenant, je travaille quand même pas mal en argentique, c'est-à-dire notamment quand je pars en voyage, j'essaye de prendre une bonne dizaine de pellicules, mais aussi pas mal au numérique parce que financièrement parlant, ça, c'est quand même un bon budget. Donc j'essaye de faire de l'argentique, je fais quand même plus d'argentique que de numérique au final. Donc j'ai déménagé il y a quelques temps, je m'étais installée à un petit labo de fortune, et donc là je n'ai plus cette occasion de pratiquer les tirages. Donc la plupart du temps c'est numérique, argentique et polaroid, ça dépend beaucoup des périodes aussi. Je travaille quand même pas mal au polaroid aussi, j'aime beaucoup expérimenter avec ce support.
Est-ce que tu as un appareil de prédilection du coup parmi les trois? J'aime bien demander ça aux photographes parce qu'on est toujours un peu curieux de savoir quel appareil.
Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argentique. Mais,
un chouchou.
Déjà, j'allais en parler au présent, mais non. J'utilisais beaucoup un Canon AE-1. Et là, je suis partie sur un Olympus. Donc, il y a peu, je suis en train de l'apprivoiser. Parce que le Canon AE-1, en fait, j'en ai eu trois. J'ai enchaîné trois et j'avais toujours un souci avec. Donc, je me suis dit, bon, il va falloir partir sur autre chose. On va essayer. Et donc, là, c'est un Olympus.
Et du coup, petite parenthèse sur le Polaroid, parce que tu en parles, il y en a pas dans cette expo.
Il y en a un seul qui est
agrandissement.
Et donc, alors, c'est un Polaroid que j'aime beaucoup expérimenter, notamment. Donc, là, c'est les Polaroids loupés, entre guillemets. Donc, j'aime beaucoup essayer d'en faire des œuvres abstraites derrière. Donc, il y a plusieurs techniques différentes, notamment donc, de les faire tremper dans des bains pour les déformer, etc.
Parce que c'est vrai que le Polaroid, de fait, impose un format très précis. Donc toi, tu t'en libères en faisant des agrandissements, par exemple, comme là, ce que tu nous proposes. C'est vrai que le Polaroid, avec sa marge blanche, son côté instantané, c'est une pratique qui a absolument son charme, mais qui impose un peu tout. Sur le moment, en tout cas, sur la prise de vue, on a un petit peu de cadrage, évidemment, mais pas tant de travail de contraste, etc. Enfin, c'est ce qui fait son charme aussi. C'est vraiment ce côté action-réaction et développement direct, si on l'utilise comme tel, en tout cas.
Oui, et qui laisse aussi, du coup, pas mal de place à la surprise, surtout avec des Polaroids... des anciens Polaroid entre guillemets, pas les nouvelles gammes maintenant qu'on peut avoir. Et après, ce format, c'était plutôt pour essayer l'aspect, comme ça faisait un côté un peu abstrait, c'était vraiment pour essayer c'est imprimé sur une toile et je voulais vraiment essayer de voir si ça pouvait donner l'effet d'une peinture entre guillemets, donc associer ça à la peinture, parce que alors j'en parle pas spécial, enfin j'aime beaucoup la photographie, mais après j'ai beaucoup d'affection aussi pour d'autres arts, entre guillemets. Donc notamment la peinture, un peu la sculpture, etc. Le cinéma, je suis un peu moins calée.
Alors peut-être un peu moins calée, mais moi, à t'écouter, en voyant l'exposition, etc., je trouve que... Il y a une phrase qui me vient en tête, c'est qu'on dit souvent dans le cinéma qu'on écrit le film, en tout cas on écrit un second film pendant le montage, qu'il y a vraiment une deuxième écriture qui se fait en partant de ce qui a été tourné, du scénario, etc. Est-ce que tu pourrais dire que c'est le cas quand tu développes les photos, avec tout ce que tu dis, des erreurs, des aléas, de finalement on va choisir cette photo parce qu'il y a... la pellicule qui est rayée, etc., c'est des choses qui ne sont pas de la mise en scène, justement. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi un parallèle à faire, ou pas tant ?
Alors, j'essaye de comprendre ce que tu me dis comme je me l'ai dit, mais c'est vrai que c'est intéressant, et presque des fois, quand les images ne ressortent pas comme on les aurait imaginés, on peut être encore plus satisfait. Et c'est ça que je peux aimer aussi dans l'image. C'est vrai que... Enfin, dans les surprises de l'argentique. Après, normalement, il n'est pas censé avoir trop de surprises non plus. Des fois, ça correspond exactement comme à ce qu'on l'avait imaginé. Et c'est très bien aussi. Après, j'essaye beaucoup d'utiliser des pellicules un peu diverses, comme les pellicules l'homographie purple, je sais pas si c'est trop connu, donc qui ont cette émulsion un peu qui rentre de ces couleurs violettes, et c'est là où on a le plus de surprises, justement,
dans le rendu.
On a le plus de surprises dans le rendu. Et après, au niveau de ce rapport au cinéma, oui, c'est sûr que ça peut faire une différence entre la prise de vue et le moment où on découvre les images.
Il y a un peu de ça, et puis un peu dans ce que tu évoques de la scénographie en général, quand tu dis que c'est en retrouvant tes photos que tu y as vu des connexions, etc. C'est un peu comme une deuxième écriture qui se fait pas forcément aussi au niveau du shooting photo ou à l'instant T où on prend la photo, surtout quand, comme toi, on se libère de contraintes de temps et on se dit pas, je commence cette série en janvier et j'aimerais la terminer. C'est vrai qu'il y a, enfin, en tout cas, ça laisse cette impression d'écriture un peu mouvante, et d'ailleurs qui n'est pas figée, vu qu'aujourd'hui.
C'est ça, c'est vrai. Après, c'est vraiment exceptionnel, c'est pas forcément le genre de projet que je réalise. Après, je me suis pas mal orientée vers la photographie documentaire aussi, donc c'est vraiment raconter une histoire. Raconter une histoire, disons qu'il y a un lien, que ce soit sur un événement, un lieu, une personne. Et là, ça s'est fait tout seul, essayer de se détacher un peu de ça aussi et de construire quelque chose de plus imaginaire, entre guillemets. Et après, oui, autant il y a des séries qu'on peut considérer avec un début, une fin, un début et une fin, autant celle-ci, oui, je pense qu'elle est quand même mouvante, et j'espère, en tout cas.
Et c'est vrai que tu parles de ton amour pour la peinture, tu as fait Histoire de l'art, donc ça a tout son sens aussi. On sent dans ton travail qu'il y a quelque chose de très pictural et très plastique. Est-ce que tu alimentes tes recherches visuelles de références, justement ? Tu as parlé de Magritte, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu après coup, ou c'est des choses qui t'inspirent, je ne sais pas si tu as des mood boards ou autre, pendant tes recherches?
Alors, celle dont là tu me parles en l'occurrence, c'était une photo prise sur le vif, et c'est vraiment sur le moment où ça m'est venu à l'esprit, mais ce n'était pas du tout prévu. Après, il y aura des séances photos où il y aura des moments et des séances photos où je vais en effet me faire des mood boards selon l'inspiration. Est-ce que m'évoque aussi la personne avec qui je vais shooter. Et après, je pense que ça se fait tout seul. Il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie énormément. Et donc. Je ne sais pas forcément si ça me vient après, par exemple, les images, celle-ci en l'occurrence. Je ne sais pas si vous connaissez John Copeland, donc qui est un photographe qui travaille beaucoup sur le corps, qui fait des autoportraits de son corps en noir et blanc, il s'analyse, entre guillemets, il travaille sur son corps. Et par exemple, sur le coup, je n'ai pas spécialement pensé, je pense, et c'est après où je me suis dit, ah bah. C'est quand même un artiste que j'aime bien, et il y a quelque chose de ça. Et mes inspirations se feraient plus dans la photographie que dans la peinture, quand même.
Voilà. Et justement, peut-être pour clôturer d'ailleurs sur cette thématique-là, est-ce que tu as un photographe ou plusieurs photographes de chevet qui sont tes maîtres à penser ou tes...
J'en ai pas un en particulier. Je suis beaucoup le travail de pas mal de personnes. Donc après, John Copeland, c'est quand même quelqu'un dont j'apprécie le travail. Et après, il y en a beaucoup, je peux vous citer les noms en vrac, mais il y a beaucoup le travail aussi de Valérie Belin, donc qui est une photographe française. Et elle a beaucoup travaillé sur les sujets qui... En gros, c'est les sujets qui m'intéressaient. Au final, je me suis dit, mais elle a fait tous les sujets sur lesquels j'aurais eu envie de travailler de la manière, donc pourquoi pas. Elle a notamment fait une série de bodybuilders, par exemple, un travail sur le corps très épuré que j'ai beaucoup aimé. Quelque chose de beaucoup plus pictural aussi, avec des fleurs. Et j'étais là, c'est pas possible.
Il faut la rencontrer, il faut faire une collaboration.
C'est ça. Et après, donc, beaucoup la photographie un peu chinoise aussi, Ren Hang, assez érotique quand même. Et il y a beaucoup d'artistes différents. Après, je pourrais vous citer beaucoup de noms.
Et cette exposition, est-ce qu'elle va voyager ailleurs ? Est-ce qu'il y a une suite ? Est-ce que, sinon, tu as d'autres projets à venir, d'expo, de résidence, de créa ?
Alors, c'est pas prévu pour le moment. Là, je vais me mettre un peu en stand-by parce que cet été, je dois travailler dans un autre domaine. Et pour après, donc après l'hiver dernier, je suis partie un mois au Vietnam et un mois en Inde. Donc, il faut que déjà je vais m'occuper un peu de trier tout ça parce que je n'aime pas trop accumuler des images et et passer à autre chose. J'ai besoin quand même de travailler un peu là-dessus. Et après, on va voir.
Voilà. Bah, super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour toute cette discussion. Merci à vous pour votre présence. Et puis, à très vite au Bar à Photos.